Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
Elle s'appelle Charlotte, Mona Lisa, Annabelle ou Amandine. Victor Hugo la surnommait la truffe du pauvre et pourtant, elle a conquis le monde et nos assiettes. On vous parle aujourd'hui de la pomme de terre. Cultivée depuis des millénaires dans les Andes, il a fallu attendre la colonisation de l'Amérique par les Espagnols pour que ce tubercule soit importé sous nos latitudes. Passé les réticences de nos lointains aïeux à l'inclure dans la cuisine, la patate a finalement rencontré le succès qu'on lui connaît, au point de devenir le troisième aliment le plus consommé au monde après le riz et le blé et d'être consacré par l'ONU comme moyen de lutte anti-famine. Pommes de terre et patati et patata, c'est la découverte amidonnée qui est la nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous parler de cette épopée de la patate, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dorothée Bourget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure agronome et rédactrice en chef du journal Potato Planet. Avec nous également Éric Birlouez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure agronome, sociologue de l'alimentation et auteur de La petite et grande histoire des céréales et légumes secs aux éditions Quae et de L'histoire de l'alimentation des Français aux éditions Ouest France. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer cet épisode d'Eureka par la fin.
Moi, ils partent sur un millefeuille, pomme de terre.
Ouais. La recette, elle est réfléchie, elle est travaillée, mais il faut qu'elle soit la meilleure.
Là, je suis en train d'écraser mes pommes de terre pour ajouter la pulpe dans la crème pâtissière. La pulpe de pomme de terre, c'est la base de la purée. C'est vraiment pour avoir une texture bien lisse. On est quand même sur un dessert, donc on aimerait vraiment avoir une crème bien lisse et bien onctueuse.
Là, je suis en train de râper de la pomme de terre Charlotte, bien fin. Je vais essayer de faire une galette en fait de pommes de terre, un petit peu épicée, fève de tonka, je pense, et puis un petit peu de cannelle. Une chute bien fine, bien croustillante, comme un millefeuille quoi.
Tu le cuis au four ?
Je le cuis à la machine à panini, chef.
Ah ok, cool, super.
Super, que de chemin parcouru par la pomme de terre Dorothée Bourget jusqu'à en arriver dans Top Chef et dans des recettes aussi alambiquées que possible. On peut remonter aux origines, remontons aux origines de cette patate. C'est une très longue histoire qui commence dans les Andes. À quand est-ce que ça remonte la culture de la pomme de terre dans cette région du monde ?
Alors dans les Andes, on pense que ça a démarré près de 8000 ans avant notre ère. Et on a trouvé des symboles sur des poteries et donc déjà depuis longtemps les populations des hauts plateaux andins se nourrissaient de pommes de terre de différentes espèces qui existaient là-bas. Et c'est vrai que c'est vraiment avec les Incas que quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont vraiment réalisé la réalité de ce qu'ils consommaient et notamment le moyen de conserver ce tubercule pour se nourrir durant les hivers très froids où il n'y avait plus rien à manger. Quoi.
Éric Birlouez, ce qui est intéressant, c'est que la pomme de terre présente une certaine forme de toxicité qu'avaient résolu justement ces populations andines, ces populations incas, grâce à une pratique de conservation. Expliquez-nous un petit peu comment ils s'y étaient pris et déjà, à quelle toxicité on était exposé ?
Oui, alors effectivement, ça n'est pas d'ailleurs le propre des pommes de terre, puisqu'énormément d'aliments sauvages ou au début de la domestication sont toxiques. La toxicité d'un légume, c'est juste un moyen de défense du légume contre ses prédateurs ou contre les différents ravageurs. Et donc la pomme de terre n'échappe pas à cela. Alors elle contient des glycoalcaloïdes, c'est-à-dire des molécules qui sont toxiques, évidemment, sur les consommes à doses élevées. Il y en a une qu'on connaît, qui est la solanine. D'ailleurs, la pomme de terre fait partie de la famille des solanacées, dans lesquelles on va trouver également des plantes toxiques. Et donc, on verra que c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles elle a été vue avec un peu de méfiance au départ par les Européens. Et donc, pour détoxifier la pomme de terre et également pouvoir la conserver pendant, non pas des mois, mais des années, les Amérindiens pratiquaient ce que j'ai pu voir encore pratiquer aujourd'hui en Bolivie ou au Pérou, c'est-à-dire qu'on va prendre les pommes de terre, on va les faire lessiver, c'est-à-dire on va les mettre dans l'eau glacée d'un torrent, ce qui va permettre d'éliminer une partie des alcaloïdes toxiques, et puis on va les mettre sur le sol à l'alternance de la nuit qui est très froide et du jour qui est très chaud. Et là, il y a une réaction chimique naturelle qui va se produire spontanément, un genre de lyophilisation, c'est-à-dire on va obtenir quelque chose de très sec, de très compact, qu'on appelle le chugno, qui est tout petit, tout rabougri, mais qui permet d'être conservé longtemps. Évidemment, c'est un atout majeur de la pomme de terre que de pouvoir être gardée sans rien perdre de ses propriétés nutritives, à condition évidemment de la réhydrater et de la garder pendant des mois, voire des années.
Une pratique qui entoure encore, vous le disiez, Éric Bilouez, pratiquée aujourd'hui dans les Andes, Dorothée Bourget. Quand on pense civilisation inca, on pense, enfin, ou précolombienne, on pense un petit peu au maïs d'abord. Est-ce que la pomme de terre était un peu l'équivalent du maïs quand même? Et est-ce que c'était déjà très consommé par ces civilisations-là?
Eh bien, je pense que le maïs était peut-être plutôt adapté à des zones un peu plus moins en altitude, alors que la pomme de terre pouvait pousser à 4000 mètres d'altitude. Et c'est vrai que maintenant, on voit encore au Pérou, j'y suis allée pour un congrès mondial, et on relance beaucoup cet aliment pour mélanger avec du jambon et ça permet de faire un peu vivre ces communautés andines qui continuent de produire soit ce genre de produits, soit des chips, parce que finalement les variétés sauvages sont souvent riches en matière sèche et elles ont souvent des couleurs assez jolies, violet, rose. Et il y a eu des initiatives pour lancer la production de chips dans ces hauts plateaux pour permettre aux communautés andines de dégager de la valorisation et de vendre ces produits dans les villes.
Et c'est là d'ailleurs, je crois que c'est dans les Andes encore aujourd'hui qu'on trouve la plus grande variété de pommes de terre à disposition, en tout cas qui sont cultivées de façon régulière.
Oui, alors l'ensemble des variétés sauvages peuvent se retrouver dans ces zones-là. Il y a surtout le Centre international de la pomme de terre, le CIP, qui à Lima conserve les 3500-4000 variétés qui existent aujourd'hui. Mais depuis le temps qu'on sélectionne, les variétés se sont développées un peu partout dans le monde et d'une manière un peu différente selon les continents, parce que la pomme de terre est très adaptable et doit quand même être sélectionné pour convenir à telle ou telle région. Et notamment, quand les premières pommes de terre sont arrivées depuis les plateaux andins, c'était des pommes de terre à jour court, parce que effectivement, le jour et la nuit sont d'égale durée sous ces latitudes, et ça n'était pas adapté à nos contrées tempérées. Et en fait, finalement, c'est à partir du moment où des pommes de terre du sud du Chili, du côté de l'île de Chiloé, ont été elles aussi importées en Europe, que finalement on a pu sélectionner des pommes de terre qui ne faisaient pas que faire du feuillage, parce que c'est le principe de la pomme de terre, elle a deux phases, elle fait d'abord ses tiges, ses feuilles, ses fleurs, et dans un deuxième temps les tubercules. Et si elle n'est pas adaptée, elle n'a pas de jour court de jour long pour tubériser, ça peut durer très longtemps.
On parlera bien sûr de la biologie, de la floraison, et puis du travail de sélection et de diversification de ces espèces, de ces variétés de pommes de terre. Si on reste un petit peu dans cette culture andine, Éric Bilouez, ce qui est intéressant, c'est que la pomme de terre aussi avait une valeur quasi rituelle, quasi culturelle même. Il y avait une divinité de la pomme de terre.
Oui, bien sûr, comme tous les aliments essentiels, on voit là encore la même chose avec le blé au Proche-Orient, avec le riz en Chine et dans le sud-est asiatique, avec le mil et le sorgho en Afrique, etc. C'est-à-dire que ces aliments absolument essentiels, qui représentent une part très importante de l'alimentation, eh bien, deviennent des aliments sacrés. Et donc, ils vont imprégner toutes les pratiques culturelles. On a retrouvé effectivement des poteries qui sont des pommes de terre. On a qui représentent des pommes de terre, exactement. On a également des pas mal de représentations humaines ou animales avec des yeux de pommes de terre qui sont dessinés. Et puis il y a la déesse de la pomme de terre. Et puis il y a au moment de la mise en terre des plants de pommes de terre, une grande cérémonie, notamment à Cusco, qui est dirigée par les prêtres du Temple du Soleil. Il y a des sacrifices, il y a des danses, on s'enivre de chicha, qui est la bière de maïs, là pour le coup. Et donc évidemment, tout ça est très ritualisé parce qu'on a affaire à un aliment qui est vital au sens propre du terme pour ces communautés andines.
La déesse de la pomme de terre, vous le saurez pour vos dîners en ville, c'est Achomama, et c'est la fille de Pachamama qui est la terre-mère, donc c'est quand même pas n'importe
c'est
qui.
Pas rien.
Dorothée Bourget, si on en arrive maintenant à ce contact entre les colons espagnols et cette culture andine, quelle est la première description qu'on fait de la pomme de terre dans ces chroniques espagnoles et comment est-ce que c'est perçu par ces colons espagnols?
Alors, effectivement, les colons eux-mêmes étaient plus intéressés par les mines d'argent et tous les trésors qu'ils pouvaient trouver sur place. Mais effectivement, dans ces voyages, il y a toujours des chroniqueurs, des personnes chargées d'un peu de l'intérêt général. Et effectivement, c'est Pedro Cieza de León, qui est un chroniqueur, compagnon de Pizarro, qui en parle dans un ouvrage publié vers 1550 en Espagne, et où il décrit ces petites truffes qui n'avaient sans doute pas le même air que nos pommes de terre d'aujourd'hui, mais qui permettent de subvenir largement à à l'alimentation des personnes. Et donc, il y avait des mineurs pour travailler dans les mines, il y avait des soldats. Donc, très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait nourrir les armées, les voyageurs avec ce tubercule. Et il a été rapporté en Espagne dans un premier temps.
À Séville, du coup, Éric Birloise, justement, qui commence à cultiver les pommes de terre, à qui on va attribuer cette nourriture-là, qui est toute nouvelle?
Oui, alors on dit qu'il y a un monastère à Séville qui accueille des indigents, des malades, hein, qui fait œuvre de charité en accueillant ces déshérités. Et puis on a l'idée de les nourrir de pommes de terre, mais pas les pommes de terre qu'on ramène du Nouveau Monde, les pommes de terre que l'on va se mettre à cultiver. Donc on commence dans le sud de l'Espagne, donc à Séville, en Andalousie, à cultiver les pommes de terre. Et puis ensuite, il va y avoir cette diffusion dans le reste de l'Europe, avec des différences selon les pays.
Ce qui est intéressant, c'est que cette diffusion, Dorothée Bourget, elle intervient d'abord un petit peu comme une curiosité. C'est surtout les botanistes qui s'y intéressent, on s'échange ce tubercule. Voilà, on parlait de ces moines sévillans qui nourrissent les indigents. Les plus nobles, eux, ils s'intéressent quand même un peu plus aux mets plus raffinés, au chocolat, ce genre de choses. Et là, la pomme de terre, finalement, prend son envol, entre guillemets, à ce moment-là en Europe, et est disséminée de façon
curiosité botanique, plutôt que comme aliment reconnu par tous. Et effectivement, on a trace d'échanges avec le pape, avec la Suisse, avec l'Allemagne. Et effectivement, les guerres diverses qui régnaient à cette époque ont fait que rapidement, les soldats ou les prisonniers ont été nourris avec des pommes de terre, mais quand même, il y avait des grosses réticences parce que c'était un produit qui poussait sous la terre et que ça n'était pas noble, surtout en rapport avec la religion, où tout ce qui poussait dans l'air était pur et sacré, et sous terre c'était plutôt l'herbe à sorcière, un produit qui peut donner la lèpre parce que elle ressemble à quelque chose de
malade,
de pas
finalement.
Très joli, oui, de malade. Donc on raconte que en Prusse, il fallait que l'empereur menace de couper le nez à ses militaires pour qu'ils acceptent d'en consommer.
Mais c'est assez fou de se dire que voilà, aujourd'hui on aime quand même globalement les pommes de terre, c'est difficile de pas aimer les pommes de terre avec Birloise. Si on en revient un petit peu à cette circulation de la pomme de terre, cette première circulation, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr on la considère comme un potentiel mets alimentaire et une ressource alimentaire, mais il y a aussi des vertus pseudo-thérapeutique qu'on prête à la pomme de terre. Je crois que Philippe II d'Espagne envoie des pommes de terre au pape.
Pour le guérir de la malaria. Mais ça va pas fonctionner.
Ça marche pas, il meurt finalement. Oui.
Non, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, déjà quand on découvre tout un tas d'aliments dans le Nouveau Monde, hein, quand Christophe Colomb débarque en 1492, il va découvrir le maïs, on va découvrir la dinde, on va découvrir, bien sûr, mais ça c'est un peu plus tard, la pomme de terre, la tomate, etc., les courges, et j'en passe.
Le piment, d'ailleurs, voilà, qui fait l'objet d'un très beau documentaire sur Arte.
Et donc, on a la première réaction, c'est de se dire, mais ces aliments qui sont consommés par des sauvages, entre guillemets, bien évidemment, est-ce qu'ils peuvent convenir aux estomacs des bons chrétiens? Parce que la Bible, elle ne parle pas des pommes de terre, elle ne parle pas des tomates. Vous voyez, il y a déjà une première, et on rejoint la religion. Mmh. On a déjà une première appréhension. Et puis, on le disait, il y a effectivement cet aspect. Les pommes de terre de l'époque ne ressemblent pas du tout à celles d'aujourd'hui. Elles sont petites, cabossées, noirâtres, une peau parfois épaisse, etc. Ça ressemble à rien. Et donc, c'est la néophobie, hein, la peur de ce qui est nouveau. Plus le fait, vous l'avez dit, Dorothée, ça pousse sous la terre, qui est cet inframonde diabolique, finalement. Et puis, on évoquait la botanique, les solanacées, c'est-à-dire que les botanistes perçoivent que la pomme de terre appartient à cette famille dans laquelle figure le tabac américain, la tomate américaine, mais aussi ce que l'on connaît en Europe, les herbes à sorcières. Belladone, mandragore, datura, jusquiam. Et là, ça participe évidemment à la méfiance vis-à-vis de la pomme de terre.
Hey mon ami, t'aimes ça manger des patates? Des patates pilées, des patates frites, des patates cheese, oui? Ben, Uncle Tom, il y a un super patent pour toi qui aime beaucoup les patates. Le Willy Waller 2006. Avec le Willy Waller 2006, là, ça va pas te prendre 3 fois moins de temps à éplucher des patates. Ni 4 fois moins de temps à éplucher des patates. Non. Avec le Willy Waller 2006, là, ça va te prendre 2 fois moins de temps pour éplucher des patates. Jamais manger de bonnes patates aurait été aussi facile.
France Culture. Eureka. Antoine Beauchamp.
On s'amuse un petit peu en vous proposant cet extrait des têtes à claques. On va revenir à un petit peu de sérieux. Et puis voilà, justement, à cette réticence qu'avaient les tables européennes à s'ouvrir aux pommes de terre. À ce propos, je vous propose d'écouter un extrait du film d'Éric Bénard qui est sorti en salle en 2021. Ça s'appelle Délicieux.
Non, oubliez donc ces conversations qui coupent l'appétit. Et daignez adresser un commentaire à mon officier de bouche. Vous voyez bien qu'il se languit. J'ai goûté de belles choses.
Vos cuissons étaient parfaites. Un régal.
Avec de telles délices, Paris vous est ouvert.
Et comment appelez-vous ces petits chaussons servis en préambule?
Le délicieux.
C'est là votre seule fausse note. Il y avait là quelques champignons qui n'a rien à faire à votre table. Et qu'était-ce que ce légume tout pâle? Pas du radis, j'espère.
De la pomme de terre.
Les tubercules. Mais pour qui nous prenez-vous? Pour des Allemands?
On dit que ça transmet la lèpre.
La pomme de terre est non seulement dangereuse, mais elle est aussi fade et vilaine.
Tout ce qui est sous terre est ignoble. Un bon cuisinier doit savoir ça.
À Paris, cela vous aurait coûté votre place, monsieur.
Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons.
Il nous prend pour dégorer.
Voilà cet extrait du film Délicieux d'Éric Bénard. Dorothée Bourget, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Ça, c'était finalement les réactions assez courantes à l'époque de la cour, des grandes cours européennes vis-à-vis de la pomme de terre.
Et c'est là où on voit tout le mérite d'Antoine Augustin Parmentier, qui lui a été le promoteur de cette espèce et qui a su dès le XVIIIe siècle faire de la promotion en invitant les personnes royales, en faisant des différentes recettes à base de pommes de terre.
C'est un grand communicant autour de la pomme de terre. On va bien évidemment bien s'attarder sur cette figure d'Antoine Augustin Parmentier. Avant qu'on aille un peu plus loin, justement, j'aimerais qu'on saisisse qui était ce personnage, parce que c'est un grand scientifique et il ne s'intéresse pas qu'à la pomme de terre. Alors expliquez-nous un petit peu dans quel contexte il évoluait et quelle était sa formation.
Alors, c'était l'apothicaire des armées, donc il était militaire et il était pharmacien. Et donc, il a travaillé sur de nombreux sujets, des céréales à l'hygiène, en passant par la pomme de terre. C'était vraiment un bienfaiteur de l'humanité, c'est sûr. Et pour la pomme de terre, il a vraiment compris qu'on tenait là une alternative aux céréales, parce qu'on était dans une époque où il y avait des disettes, des récoltes mauvaises, et que la pomme de terre pouvait être une alternative qui permettrait d'éviter les famines, quoi.
Éric Birloise, Antoine-Augustin Parmentier lui-même avait été nourri de force à la pomme de terre. Expliquez-nous dans quel cadre et puis quel constat il a fait en étant prisonnier, en se nourrissant de pommes de terre.
Lorsqu'il avait à peu près une vingtaine d'années, effectivement, il va être fait prisonnier en Prusse. C'est la guerre de 7 ans qui a éclaté. Et là, il découvre que, eh bien, il arrive à très bien non seulement survivre, mais à être à peu près en forme en mangeant les pommes de terre que ses geôliers lui apportent quotidiennement. Et donc, il est vraiment convaincu, et ça va devenir même son obsession, que la pomme de terre, c'est ce qui va permettre aux paysans français, au peuple, de pouvoir justement surmonter définitivement ces périodes de disette et de famine. Alors, c'est vrai que c'est un personnage qui est tout à fait important. On l'a dit, il faut pas le limiter son action à celle de la pomme de terre. Il va jouer un grand rôle, mais c'est vrai qu'avant, voilà, en même temps, il y a toujours un peu une part de légende qui fait qu'on va peut-être lui attribuer un tout petit peu plus que la réalité. Il y avait eu avant lui d'autres scientifiques qui avaient un peu étudié quand même la pomme de terre, mais c'est vrai que Parmentier était un grand génie de la communication et savait très bien trouver le moyen, comme on l'a dit, de promouvoir ce tubercule auprès du roi Louis XVI et puis auprès des leaders d'opinion de l'époque, comme vous le disiez, en les invitant à des repas tout pommes de terre du début à la fin.
Ce qui est intéressant, Dorothée Bourget, c'est que en Europe, toutes les couronnes ne réagissent pas de la même façon à la culture de la pomme de terre. En France, jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle à peu près, la culture de la pomme de terre était purement et simplement interdite, alors qu'en Allemagne, par ailleurs, on l'imposait quasiment. Voilà.
Oui, on était un grand pays de céréales quand même en France, donc on n'avait pas tout à fait les mêmes problématiques que d'autres pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas et puis l'Angleterre et notamment l'Irlande qui effectivement a un climat tout à fait approprié à la culture de pommes de terre.
Éric Birloise.
Oui, ce qu'il faut dire effectivement, c'est que avant Parmentier, il y avait des pommes de terre en France qui étaient cultivées, qui étaient consommées, mais qui ne l'étaient que lors des moments difficiles, c'est-à-dire en période de disette. Les paysans mangeaient des pommes de terre quand ils n'avaient plus de céréales, lorsque c'était, de là vient l'expression, la fin des haricots, donc même plus de légumes secs. Donc la pomme de terre, c'était vraiment l'aliment de survie. Mais dès qu'ils pouvaient revenir à une alimentation à base de pain, de légumes secs et de légumes, ils ne s'en privaient pas. Donc Parmentier n'a pas fait que les Français ont découvert la pomme de terre et se sont mis à la manger, mais a permis simplement d'en populariser et d'en finir avec ces préjugés qu'on évoquait.
Parce que dans ces temps de disette, les académies scientifiques demandent justement aux savants de se pencher sur ces questions. Par exemple, donc en 1769-1770, qu'il y a une grande disette qui frappe la Bourgogne et la Franche-Comté. Et là, l'Académie de Besançon, Dorothée Bourget, missionne les savants et leur dit qu'il faut trouver une solution parce qu'on ne peut plus supporter de telles famines.
Voilà. Et rédige effectivement un rapport où il détaille toutes les possibilités de la pomme de terre. Et il va gagner ce concours, donc il devait être assez convaincant. Et donc, il commence à demander de pouvoir en cultiver, faire venir des variétés.
Mais à cette époque-là, de quelles variétés on dispose? Quel champ, quelle fourchette de variétés on a à disposition?
Alors, on parle de, elles ont des noms un peu variés, de la blanche ou la chardon ou la sauce et après la saucisse, il y a tout un tas de noms qui évoquent sans doute plutôt leur allure, leur forme, leur couleur. Mais le problème de Parmentier à ce moment-là, c'est que dans sa réflexion, il s'est dit qu'il pouvait aussi essayer de faire du pain avec l'amidon de la pomme de terre, la fécule. Et donc là, ça a beaucoup moins plu à tout le lobby céréalier de l'époque. Donc là, il est était un petit peu freiné dans son élan sur cette voie-là.
Il y avait déjà des lobbies au XVIIIe siècle, Éric Berlouez, c'est important de le rappeler, et déjà un lobby des céréales.
Oui, et ça n'a pas marché d'ailleurs. Hein, il n'a pas réussi à faire, et pour cause, à faire du pain avec la fécule de pomme de terre, parce que il n'y a pas le gluten qu'on va trouver dans le pain qui permet d'avoir une mie levée, aérée, etc.
Alors, par ailleurs, Parmentier quand même obtient plutôt plus ou moins gain de cause. C'était un génie, d'une certaine façon, de la communication, Éric Berlouez. Et à cette époque-là, pour vendre sa pomme de terre, il organise des grands dîners où se croisent des grands noms des sciences comme Benjamin Franklin,
Lavoisier.
Voilà. Expliquez-nous un petit peu quelle stratégie de communication il va mettre en place pour éveiller la France à la pomme de terre.
Bah, une de ses idées, c'est effectivement de jouer sur des leaders d'opinion, c'est-à-dire des gens qui sont dans des positions de pouvoir, et puis également des scientifiques ou des hommes politiques qui vont pouvoir relayer le message en faveur de la pomme de terre. C'est un des exemples.
Là, on parle auprès des puissants, mais auprès du peuple aussi.
Oui.
Alors là, il y a une histoire pseudo-légendaire autour de Parmentier qui aurait fait aussi... Racontez-nous
ça. Oui, alors, en deux mots, effectivement, il arrive à convaincre Louis XVI de lui octroyer la possibilité d'utiliser la plaine des Sablons, c'est tout à côté de Paris, la plaine de Grenelle également, pour y faire un terrain d'expérimentation. Donc il y plante des tubercules, et puis bien sûr le champ est surveillé par des soldats. Alors ce que l'histoire dit, mais ça c'est le relève de la légende, c'est que Parmentier aurait dit aux soldats de relâcher délibérément leur surveillance la nuit, de manière à ce que les gens se disent, mais quel est ce trésor qui est cultivé et qui est gardé par des hommes en armes, et donc ça aurait facilité le fait qu'il n'y ait pas de surveillance, le fait que les pommes de terre soient dérobées. Alors effectivement, elles ont été dérobées par les gens du peuple, mais non pas parce que Parmentier avait eu l'idée de faire relâcher la surveillance militaire de nuit, mais simplement parce qu'il n'y avait pas assez de soldats pour garder le champ la nuit. Et au contraire, Parmentier se désolait de voir ses pommes de terre dérobées parce qu'elles n'étaient pas mûres.
Oui, donc, voilà, peut-être que s'il venait prendre des feuilles, c'était pas la meilleure partie de la plante à consommer, d'autant que justement les parties vertes sont celles qui peut-être ont le plus de solanine, donc il valait mieux attendre que la pomme de terre soit récoltée.
Et donc ça le désolait, effectivement.
Mais par contre, quand il invite le roi Louis XVI à venir voir la récolte de pommes de terre. Le roi, dit-on, prend une fleur de pommes de terre, la met sur le chapeau de la reine, et donc ça participe à l'imagerie d'Épinal.
C'est le meilleur emplacement publicitaire du
royaume à l'époque.
Le meilleur
sandwich de l'histoire, oui, c'est ça. Mais pour autant, donc, la pomme de terre tarde un petit peu à s'enraciner dans l'agriculture française. Éric Berlouez, à partir de quand est-ce qu'on peut dire que finalement c'est devenu une sorte d'incontournable en France de la culture?
Ça va venir assez vite quand même, hein. Il me semble, à partir du début du... Alors déjà, les révolutionnaires sont intéressés par cette plante nourricière, et puis à partir des premières décennies du 19e siècle, on va voir la production de pommes de terre monter en flèche.
Et notamment au début du 19e siècle, après les guerres napoléoniennes, je crois, Dorothée Bourget, qui l'a encore une fois... occasionne de grandes famines. Voilà. Et là, on va se pencher vraiment, et là, on va se reposer vraiment sur la pomme de terre.
Effectivement, cette culture, elle a le mérite quand même de pousser relativement vite. C'est quelque chose qui est profitable et qui permet d'alimenter rapidement les populations. Et on s'est rendu compte pendant toutes les guerres, en fait, même les deux guerres mondiales, c'est des moments où la production est remontée dans nos pays, alors que quand même, globalement, depuis le début du XXe siècle, la consommation de pommes de terre en Europe de l'Ouest est plutôt en train de descendre doucement.
Quoi. Est-ce qu'on peut expliquer, parce qu'on n'en a pas trop parlé, de l'aspect botanique, mais qu'est-ce qui rend la pomme de terre aussi simple à cultiver par rapport à d'autres cultures vivrières? On parlait du blé ou d'autres céréales qui pouvaient subir vraiment les aléas du climat. Là, qu'est-ce qui, dans la pratique de la culture de la pomme de terre, est aussi simple?
Elle n'est pas simple à cultiver. La pomme de terre, c'est un gros potentiel, une très grosse adaptabilité, mais c'est aussi beaucoup de défis, parce que c'est quand même un légume. À la fin, c'est une boule d'amidon qui intéresse beaucoup les pathogènes et qui est quand même très dépendante du climat qu'il y a autour d'elle. Donc en fait, la pomme de terre, c'est à la fois
simple
une
et
grosse,
simple,
une grosse potentialité, mais on se rend compte que de par le monde, il y a des grosses différences de rendement selon qu'on est en Afrique ou en Europe de l'Ouest.
Alors, je vais préciser ma question. Qu'est-ce qui fait que dans des périodes de sécheresse ou des périodes climatiques compliquées pour d'autres types de cultures vivrières, la pomme de terre, elle, va pouvoir continuer à être cultivée?
Alors, la pomme de terre peut commencer à... On la plante 6-7 degrés, elle supporte des températures entre 6 et 35-40 degrés. Après, elle s'arrête. Elle peut supporter des climats très secs, surtout si on lui met un peu d'eau, si on l'irrigue. Après, ce qu'elle a de particulier, c'est justement la quantité de matière sèche qu'elle est capable de produire avec un peu d'eau, pas trop d'eau, à la fois sur un cycle relativement court, puisqu'on peut avoir des pommes de terre au bout de 3 mois, 90 jours à 150 jours, alors qu'une céréale, il lui faut tout un cycle plus long pour produire. Donc, en un temps relativement réduit, avec une quantité d'eau, il en faut, mais relativement réduite, de l'azote quand même, il faut un petit peu lui donner de la fertilisation, elle est capable de fournir une quantité de matière sèche très importante. Et donc, c'est pas quelque chose qui remplace les céréales, mais c'est une alternative tout à fait pertinente pour nourrir les populations.
Et on verra dans un second temps de cette émission que malheureusement la pomme de terre n'est pas exempte de tout parasite et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Éric Birlouez, une petite question vraiment simple à laquelle je me suis confronté. Bon, je suis pas allé chercher bien loin parce que je me disais que vous nous donneriez la réponse, mais pourquoi on appelle ça pomme de terre en France et pas patate, tout simplement, puisque le terme originel, je crois que c'est papa
oui,
en
voilà.
Quechua. Et après, on s'est dit papa, c'est le pape, et ça va pas marcher.
Donc
donc les Espagnols l'ont appelé patata.
Effectivement, donc on appelait ça patate. En fait, les premiers, et le terme de pomme de terre va venir un petit peu après. C'est un botaniste, agronome, qui s'appelle Duhamel Dumonceau, qui, semble-t-il, lui a donné ce nom de pomme de terre, parce qu'auparavant, on l'appelait par analogie, par similarité d'aspect, truffe de terre, et puis dans les régions, on parlait de cartoufle,
en allemand, et kartoffel. Kartoffel, ça vient de kartoffoli en italien, qui veut dire
voilà, du mot italien, etc. Donc, on avait tout un tas de noms locaux et puis truffes parce que effectivement ça ressemblait à ce petit champignon souterrain qui n'était pas prisé comme il l'est aujourd'hui.
Alors restez avec nous parce qu'on va voir que si la pomme de terre a pu être perçue comme un aliment miracle, elle a pu aussi également malheureusement indirectement conduire à des catastrophes. On en parle juste après ça.
Peut-être. En Amérique, tous les jeunes le dansent.
Ça ressemble un peu au Charleston?
Oui, un peu au slop aussi.
Tu veux pas nous la prendre?
Si, bien sûr. Allez, tout le monde autour de moi.
Mm-hmm. Jazz, les pommes de terre avec Johnny Hallyday, Mashed Potatoes dans Eureka sur France Culture. Nous parlons, vous l'aurez compris tout au long de cette heure, de la découverte de la patate, de la pomme de terre. Et nous en parlons avec Dorothée Bourget, ingénieure agronome et rédactrice en chef du journal Potato Planet. Avec nous également Éric Birlouez, ingénieur agronome, sociologue de l'alimentation et auteur de La petite et grande histoire des céréales et légumes secs aux éditions Coué et de l'histoire de l'alimentation des Français aux éditions Ouest France. Alors Dorothée Bourget, on n'a pas trop parlé non plus des vertus nutritives de la pomme de terre. Là aussi, c'est une des grandes qualités de ce tubercule. Quelles sont-elles et pourquoi elles sont aussi intéressantes ?
Oui, alors la pomme de terre, c'est une plante amylacée, donc qui produit de l'amidon. Alors on appelle fécule cet amidon-là puisqu'il est produit sous terre, à la différence des céréales. Mais elle produit aussi des fibres, elle a de la vitamine C. Alors certes, qui peut un peu disparaître à la cuisson, mais néanmoins, elle a aussi d'autres vitamines. Donc elle est quand même assez riche, elle apporte du potassium, un peu de fer, enfin c'est quand même un aliment relativement complet qui n'est pas que de la matière sèche amidonnée.
Qui fait qu'on peut se nourrir quasiment exclusivement de pommes de terre en période un petit peu de tension alimentaire. Éric Birlouez, on en vient justement à cet événement historique un petit peu dramatique qui a frappé l'Irlande. Alors peut-être qu'on peut rappeler un petit peu le contexte agriculturel de l'Irlande à ce moment-là, au 19e siècle. Quel était-il et pourquoi la pomme de terre était aussi bien implantée en Irlande à ce moment-là ?
C'est très important, effectivement, de rappeler le contexte, parce que on va y venir, mais on met souvent tout sur le dos du mildiou, ce fameux champignon qui va dévaster les cultures de pommes de terre irlandaises. Mais le contexte est très important. Alors le contexte, c'est donc la famine, elle va démarrer en 1845, elle va durer 5-6 ans, jusque 1851 au moins. Et c'est une époque où, donc dans les années 1840, où l'Irlande traverse une crise économique importante. Et pourtant, elle fait partie, parce qu'elle est rattachée au Royaume-Uni, elle fait partie du Royaume-Uni, qui est quand même, il faut le rappeler, l'empire le plus riche, le plus puissant du monde. Et c'est pourtant l'Irlande qui va être frappée par cette famine. Donc il y a déjà des difficultés économiques en Irlande parce que les fabriques, les entreprises, les producteurs agricoles sont concurrencés, à commencer par les Anglais, puis le reste du continent européen. On a aussi en Irlande une particularité qui est une société extrêmement inégalitaire. On a à peu près 100 000 gros fermiers qui possèdent tout le pays, toutes les terres agricoles, et sur une population de 8 millions de personnes, 2 à 3 millions de pauvres, de très pauvres, des ouvriers agricoles. Et ces ouvriers agricoles, eh bien, ils ont, par chance, la pomme de terre dont ils vont se nourrir matin, midi et soir. Parce que le blé, ils vont être vendus par les propriétaires, par les fermiers, pour l'exportation, et puis par les petits paysans pour payer tout simplement les fermages. Donc les ouvriers agricoles, ils n'ont que les pommes de terre, pratiquement, à manger. Mmh. Et c'est quand même une bénédiction par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure. On arrive même à une situation où 10% du territoire, pas agricole, mais du territoire de l'Irlande, est occupé par les pommes de terre, ce qui est évidemment considérable. Oui, mais ce qui est une énorme vulnérabilité le jour où le mildiou arrive. Et puis également, peut-être dans les éléments de contexte, il faut voir aussi que l'Irlande, c'est un pays à très forte démographie. On a une population qui va être multipliée par 3 en l'espace de même pas un siècle. Donc évidemment, quand la nourriture va commencer à manquer, ça va être extrêmement problématique. Donc on a tout un cocktail une situation, et le mildiou, eh bien, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Surtout que la manière dont la crise est gérée ne va vraiment pas aider les Irlandais à s'en sortir.
Alors, en 1845, Dorothée Bourget, 1,5 million de paysans irlandais se nourrissent quasiment exclusivement, quotidiennement, de pommes de terre. Arrive ce mildiou. Quel est l'effet de ce parasite et de ce champignon sur la pomme de terre ?
Ah ben le mildiou est un champignon sur les feuilles d'abord, et qui donc grille complètement le feuillage. Et le feuillage est quand même l'élément qui, par photosynthèse, va alimenter le tubercule. Et donc il se trouve que à cette époque, la variété utilisée en Irlande, l'Humper, qui était très développée, était particulièrement sensible au mildiou et avait assez peu de matière sèche. Donc, ça n'a pas contribué à résister à ce mildiou. Et donc, il y a eu une première attaque de mildiou en 1845 et puis une autre en 46. Bon, le mildiou avait déjà un peu sévi en Europe continentale avant, mais sur le contexte de l'Irlande, ça a été assez dramatique parce que humidité, température fraîche, ça correspondait vraiment aux meilleures conditions pour le parasite.
Ce qui est catastrophique aussi, Eric Bielouez, c'est que le mildiou s'attaque pas seulement aux plants en terre, mais aussi aux stocks.
Oui, et effectivement, on a des années de grande humidité. Alors, la pomme de terre, elle peut se développer dans un sol humide, mais quand on a ce champignon parasite qui probablement arrive des États-Unis et qui adore l'humidité, évidemment, pour les stocks comme pour les pommes de terre en place, c'est une véritable catastrophe.
Alors, quelles vont être les conséquences de cette attaque de mildiou en Irlande, Dorothée Bourget, sur non seulement la population agricole, la population paysanne, et sur la population en général?
Eh bien, il va y avoir d'une part énormément de morts, on dit presque 2 millions de morts en quelques années, et puis des épidémies qui vont se développer aussi, du typhus, qui va en plus accentuer la malédiction de ces pauvres gens, et ça va créer un immense élan d'émigration vers les États-Unis, c'était déjà le cas un peu par le fait du nombre d'enfants dans les familles, donc c'était normal de s'en aller, mais là il y a eu vraiment une vague énorme d'immigration vers les États-Unis.
À quoi tient l'histoire finalement, Eric Bielouez?
Oui, et puis je pense qu'il faut insister effectivement sur la manière dont la crise a été gérée, ou plutôt pas gérée, par les autorités britanniques, parce que finalement dans un premier temps on va rien faire. Alors on va rien faire parce que pour tout un tas de raisons, mais il y a aussi on est dans l'Angleterre des économistes qui prônent le libéralisme, c'est-à-dire l'État ne doit surtout pas intervenir, il faut laisser la concurrence, enfin on connaît bien le discours. On est aussi dans une époque des thèses malthusiennes, où finalement Malthus dit, face à l'accroissement de la population, que l'alimentation, la production agricole n'arrive pas à rejoindre, finalement la nature fait son job, c'est-à-dire qu'elle supprime, donc on va certainement pas aider les pauvres, parce que voilà, il faut laisser la nature faire son œuvre. Et donc, et puis en plus, bon, faut pas oublier que les Irlandais sont fidèles au pape, donc ça ne plaît pas non plus aux autorités, donc on va vraiment pas, c'est le moins qu'on puisse dire, se précipiter pour aider les Irlandais, jusqu'à un moment où on se dit, bon, quand même, ça devient vraiment grave, année après année, ces gens, vous dites, qui meurent par centaines de milliers. Et donc là, le gouvernement britannique va intervenir, non pas bien sûr en donnant des aides financières ou en donnant gratuitement de la nourriture, mais en demandant aux Irlandais d'acheter du maïs qui vient des États-Unis. Ils doivent le payer, ils n'ont pas d'argent, donc on va les faire travailler, des travaux forcés, finalement, on peut dire, etc. Donc, et puis, il y avait aussi des Irlandais qui étaient de plus en plus nombreux à revendiquer de s'émanciper du Royaume-Uni, qui s'estimaient maltraités. Donc, tout ça est sur un fond de tension politique très forte, et avec cette idée que, voilà, on va pas aider ces Irlandais. Finalement, c'est un peu un châtiment divin qui leur tombe dessus avec ce mildiou. Quelque part, ils l'ont bien cherché. On a vraiment des textes qui montrent comment les choses ont été gérées, c'est-à-dire en réalité, pas vraiment gérées, mais je pense délibérément, pour une grande partie, par les autorités britanniques, qui auraient pu, c'était encore une fois l'empire le plus riche du monde, ils n'avaient aucun problème de subvenir.
C'est pas tant finalement un problème de monoculture, puisque l'Irlande avait plusieurs cultures, mais elle exportait ses cultures vivrières à l'étranger, et finalement c'est ça le problème, c'est qu'il n'y avait plus que des pommes de terre à disposition, et c'est là aussi...
Et que les plus pauvres mangeaient la pomme de terre et pas autre chose, et voilà.
On va poursuivre tout de suite cette histoire de la découverte et de l'expansion de la pomme de terre. Je vous propose d'écouter une archive un peu plus tardive, on est en 1966, et on demande à des citoyens, des passants français, quelles sont leurs espèces et leurs variétés de pommes de terre préférées.
Madame, est-ce que vous mangez beaucoup de pommes de terre?
Oui.
Combien de fois par semaine à peu près? souvent, presque à tous les repas, vous savez.
Presque à tous les repas.
Oui.
Par semaine, oh, il faut deux petits sacs de 5 kilos par semaine.
Nous varions quand même les menus. Oui. Enfin, la pomme de terre revient souvent.
Oui, mais dans des formes, sous des formes différentes.
Ah, oui.
Monsieur, vous faites le marché avec madame?
Ben, ça m'arrive souvent, surtout le samedi, par le fait, j'en fais pour tout, pour
est-ce
ma
que vous
semaine.
Achetez souvent des pommes de terre?
Ben, j'arrive à en acheter un petit peu quand même, comme tout le monde.
Est-ce,
ben,
que,
y a
vous,
pas de raison.
Est-ce que vous aimez en manger?
J'en mange un petit peu, oui, il n'y a pas de raison.
Et vous aimez aussi?
Oui.
Enfin, c'est la plus grande partie de l'alimentation chez nous.
C'est-à-dire que vous en mangez tous les jours?
Oh oui, à toutes les sauces.
Quelle est la qualité de pommes de terre que vous préférez?
Oh ben, la binge, là, qu'on a.
Les frites.
Ah, la binge, par le fait, eh bien.
En principe, c'est la binge, comprends.
Quelle est la catégorie de pommes de terre que...
Ah, je préfère la blanche, j'aime pas la rouge parce
la
que...
La blanche,
oui, la blanche.
La binge qui revient dans ce discours des passants, la binge qui est parfaitement adaptée aux frites. Petite question un petit peu anecdotique, mais la frite, ça vient d'où, Dorothée Bourget? Ça a été inventé quand? C'est une recette?
Alors, il y a plusieurs façons de d'en parler. On dit que en Belgique on mangeait de la friture de petits poissons, et puis que quand il y avait plus de petits poissons, ben on a taillé des petits morceaux de pommes de terre et on les a fait frire, donc ça a donné de la friture. Bon, on aime aux États-Unis, je pense qu'il y a d'autres histoires. Mmh. Mais ce qui est fou, c'est de penser que les variétés de pommes de terre arrivent à durer très très longtemps dans nos contrées, parce que la binge a été sélectionnée en 1905 par un instituteur néerlandais, parce que quand même on peut dire que les Pays-Bas ont été un endroit aussi où s'est beaucoup développé la pomme de terre, et où notamment s'est développé ce qu'on appelle le plan de pomme de terre, c'est-à-dire la production de semences pour la culture, qui est un élément essentiel de la réussite de la culture. Et donc cette binge qui s'est trouvée déjà plus adaptée au sud de l'Europe, que les Hollandais n'aimaient pas forcément, parce qu'elle avait plutôt un peu moins de matière sèche que les variétés qu'ils consommaient là-bas, et que là-bas la pomme de terre, c'est un peu une alternative au pain. Et donc la binge est allée rapidement s'implanter en France, et effectivement est une variété qui permettait de faire vraiment beaucoup de préparations avec une matière sèche moyenne, mais pas trop importante, et qui après a permis de faire les frites qu'on connaît tous, les bonnes frites avec une couleur qui reste claire, une bonne matière sèche, un bon goût, et qui est devenue la variété emblématique, en tout cas, de tout le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, tout le nord de la France.
Ce qui est incroyable avec la pomme de terre, Eric Birloise, c'est la quantité de variétés. Aujourd'hui, on en connaît, je crois, vous me disiez avant cette émission, 3500 variétés, ce qui est colossal. Je connais assez peu d'espèces de légumes qui soient aussi variés. Comment est-ce qu'on fait pour inventer une nouvelle espèce, ou par quel processus on passe pour inventer une nouvelle espèce de pomme de terre?
Ça, c'est des processus qui existent depuis la nuit des temps, en tout cas depuis l'agriculture, où les agriculteurs vont essayer de sélectionner les individus, les spécimens végétaux qui leur paraissent les plus intéressants, de faire des croisements, etc. Alors après, évidemment, la technologie va permettre d'accélérer les processus, mais c'est vraiment une histoire ancienne. La domestication, de toute façon, c'est la modification génétique des plantes.
Dorothée Bourget, en plus, la pomme de terre a une génétique assez complexe, je crois.
Oui, mais bon, c'est quand même d'abord une culture qui peut se reproduire végétativement par le tubercule. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut conserver des variétés relativement longtemps, et qu'on n'a pas besoin forcément de passer par la sélection pour cultiver la pomme de terre, et que on doit simplement reprendre le plan mère pour replanter, pour avoir une autre récolte, et que donc une des grosses missions des agriculteurs, c'était d'avoir des plants de pommes de terre sains qui étaient épargnés de maladies pour
Alors
pouvoir
ça, c'est
après
une question, justement,
faire,
je souhaitais vous poser. Comment est-ce qu'à partir, par exemple, de l'entrée du mildiou en Europe depuis les États-Unis, on va faire en sorte qu'on ne garde que des pommes de terre qui soient plus résistante au mildiou. Ça passe par quoi?
Alors, bon, le mildiou, ça attaque toutes les variétés de pommes de terre. C'est, au départ, les premiers, quand le mildiou est arrivé, on croyait qu'en repassant par des graines, on pouvait lutter contre le mildiou, mais bon, ça n'était pas forcément efficace. Par contre, repasser par les graines permettait de s'affranchir des virus, parce qu'il y a deux sortes de maladies importantes pour la pomme de terre. Effectivement, tous les pathogènes, champignons, bactéries. Et puis, le problème de l'infestation de virus qui fait que la plante est chétive, elle ne fait pas beaucoup de rendement. Mmh. Et donc, la sélection de la pomme de terre, après avoir simplement été visuelle, pour garder les meilleurs échantillons d'un champ, le replanter, ce qui a été fait pendant longtemps, on s'est mis à partir du moment où on connaissait les lois de Mendel, la sélection s'est mise à l'œuvre dès le début au 19e, 20e siècle. Et là, on s'est rendu compte que ça n'était pas très facile de sélectionner des pommes de terre parce que elle a 12 chromosomes, mais ça peut être 2 fois 12, 3, 4 fois, 6 fois. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs répétitions du même trait. Et donc, quand on multiplie, on fait un croisement, on peut se retrouver avec des choses très différentes. Oui. Et donc, c'est vrai que la sélection de la pomme de terre, c'est un long chemin vers l'amélioration. Et donc, pour avoir une nouvelle variété, il faut attendre donc que la plante fasse ses fleurs, ses petites baies, puisque donc c'est une solanacée, elle fait des petites baies comme une tomate. Et donc, à l'intérieur, il y a des graines qui sont, elles, des hybrides, des mélanges. Et donc, il faut choisir les bonnes graines. Mmh. Donc, le principe de la sélection, c'est d'aller diriger la pollinisation de ces graines, parce que si on la laisse s'auto-polliniser, ça donne pas grand-chose. Donc, prendre le pollen d'un parent qu'on estime intéressant pour être le père, les déposer sur le pistil du pied qui est la mère, et puis donc l'enfermer pour qu'il y ait une des graines nouvelles qu'après on va planter, mettre dans des serres, et puis essayer après de sélectionner, de trouver ceux qui seront les meilleurs. Et ça, c'est un gros boulot quand même.
Oui, c'est un travail minutieux, et c'est ce travail minutieux justement qui conduit à la diversification de ces variétés de pommes de terre, et qui fait aussi, Éric Birloez, que la pomme de terre a conquis la planète entière, ou presque.
Oui, quasiment. Alors, de part et d'autre de l'équateur, ça pousse pas très bien, ni au pôle, mais on a quand même là un aliment qui est extrêmement adaptable à des conditions de climat, de terroir, tout à fait variées, et ce qui explique ce que vous disiez en commençant, que c'est le troisième aliment le plus consommé dans le monde après le riz et le blé.
Le riz qui a besoin de beaucoup d'eau dans un contexte de réchauffement climatique. Je crois que la Chine commence, Dorothée Bourget, à réfléchir. J'ai lu qu'en 2021, il y avait une étude qui était parue dans la revue Nature Food qui justement enjoignait un petit peu les agriculteurs chinois à envisager la pomme de terre.
Ça fait même plus de 10 ans que la Chine a souhaité lancer des plans de développement de la pomme de terre pour s'affranchir un peu des importations de céréales qui doit faire. Et la Chine est déjà depuis longtemps le premier producteur de pommes de terre parce que c'est très grand. Et maintenant c'est presque 90 millions de tonnes. Alors bon, les statistiques sont plus ou moins précises, vu que en Chine il y a beaucoup de production dans les campagnes, de petits producteurs qui ont un cochon.
C'est pas forcément pour le commerce. Quoi,
voilà, la pomme de terre chinoise, une grosse majorité de cette pomme de terre ne s'échange pas. Ou s'échange sur des circuits très courts. Maintenant en Chine, il y a aussi des zones où on fait de la pomme de terre d'industrie. et où on fait des rendements plus importants dans, dans le nord, dans de la Chine ou même à d'autres endroits. Et donc la pomme de terre peut avoir un statut très très divers. Et donc la Chine souhaite développer davantage la pomme de terre avec de nouvelles variétés. Et ils sont aidés par le CIP aussi qui travaille à trouver des variétés adaptées. Et ça se heurte un petit peu à la mentalité des Chinois des villes qui, pour qui la pomme de terre, c'est un peu la nourriture du pauvre. C'est encore, pas très fun. Donc, il y a une petite résistance aussi à développer la pomme de terre. Alors, il faut savoir qu'en Chine, il y a aussi les nouilles chinoises sont faites avec de la fécule de pomme de terre. Il y a aussi toute une industrie.
La fécule, comment ça se fait? C'est de la lyophilisation simple.
La fécule, on cultive des variétés spécifiques très riches en matière sèche. D'habitude, c'est 20%. Là, pour la fécule, on essaie d'avoir des variétés à plutôt 24-25%. Et elles sont, on cherche moins à ce qu'elles soient belles, on cherche vraiment à ce qu'elles fassent du rendement. C'est des cultures longues pour avoir des gros rendements. Et après, elles sont, elles passent dans des usines pour être écrasées et donner de la fécule de pomme de terre qui après sert dans des usages multiples depuis la papeterie pour avoir un papier bien blanc parce que la fécule de pomme de terre, à la différence de l'amidon de maïs ou de, est très blanc et elle a une température de, le grain explose à une température un petit peu inférieure, donc permet de rentrer dans des process un peu différents. Donc c'est un peu de l'amidon de haut de gamme. Sauf que ben il faut conserver des pommes de terre où il y a 80% d'eau et c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avec des grains. Donc c'est d'une manipulation plus compliquée et donc un peu plus cher à obtenir.
Que de chemin parcouru du coup, Éric Birlouez, depuis les Andes jusqu'à la fabrication de papier. Alors là, on perçoit un petit peu tout ça. On perçoit aussi que voilà, il y a cette ambivalence avec la pomme de terre. C'est enfin pas une ambivalence, mais cette complémentarité. C'est une culture qui va servir à nourrir un maximum de gens. C'est aussi aujourd'hui rentrer dans les tables étoilées. On pense à Joël Robuchon par exemple, avec sa purée qui a fait sensation justement en revisitant ce plat populaire. Voilà, bilan un petit peu de ce parcours de la patate depuis sa découverte.
C'est vrai qu'on peut se dire qu'en l'espace de quoi, 200 siècles ou 2 siècles et demi maximum, la pomme de terre qui était encore dans l'encyclopédie de Diderot, on parle de la pomme de terre comme un légume, certes, qui peut nourrir le peuple. On est en 1765, mais qui est fade, qui est farineux, qui donne des vents. Alors ça, c'est pas grave pour les travailleurs et les manœuvres, mais quand même, les gens distingués ne peuvent pas consommer de la pomme de terre. Et puis, assez rapidement, quelques, on va dire un demi-siècle après, la pomme de terre va commencer à entrer dans la gastronomie. On va avoir de plus en plus de livres de cuisine, dès le début du 19e siècle d'ailleurs, qui vont proposer des recettes de pommes de terre. La pomme de terre, on peut la faire bouillir à l'eau, on peut la faire cuire à la vapeur, au four, on peut la consommer sous forme de chips, de frites, de gratins, croquettes, etc., etc. Et donc c'est quand même extraordinaire cette plasticité de ce légume qui plaît quand même. Je crois que dans le monde, la pomme de terre est aussi appréciée, peut-être moins par les Chinois, je ne sais pas, mais en tout cas aussi appréciée que la pizza, que les pâtes. C'est-à-dire, c'est un aliment qui est quand même assez mondialisé.
Et qui peut se préparer de mille et une façons.
Et économique, et peu coûteux.
On raconte que les pommes soufflées ont été inventées parce que on inaugurait la ligne de chemin de fer vers Saint-Germain-en-Laye sous Louis-Philippe, et Louis-Philippe était en retard, et donc le cuisinier qui avait fait des pommes sautées avait retiré ses pommes sautées du feu en attendant l'arrivée du train, et que quand le train est arrivé, il les a remis très vite dans un bain d'huile plus à température plus haute, et hop, les pommes de terre se sont mises à gonfler et on a inventé comme ça les pommes de terre soufflées.
Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure, Dorothée Bourget et Éric Birlouez, pour nous raconter cette histoire qui nous donne un petit peu la patate. You say either, I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, and let's call the whole thing off. Yes, you like potato, I like potato, you like tomato, I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. Let's Call the Whole Thing Off par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong pour conclure cette émission en musique. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Garance Prema Agnolo, Nicolas Berger à la réalisation accompagnée de Sam Bakiast, à la technique aujourd'hui d'Ali Yaha. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain de Reka et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Call the calling of off. Oh, let's call the whole thing off. Yeah. You say-